I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
CJMD 96.9 FM. Talk, rock, hip hop.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff Morin.
Courtier immobilier. Et son co-animateur Kevin Filion. À chaque semaine, on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier. Salut, Kevin.
Salut, Jeff. Ça va?
Ça va super bien. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui est dans ta talle. Fait que là, c'est moi qui va prendre un peu plus de recul dans toutes les discussions. Puis là, je pense que tu vas pouvoir driver, mon gars, le show, let's go. On parle de construction. On parle aujourd'hui d'évolution ultra rapide dans un développement d'entreprise de construction parce que c'est ce qu'ils vivent actuellement. On reçoit aujourd'hui Pierre-Yves Charret, président, directeur général de Oikos Construction. Salut.
Enchanté.
Enchanté. Merci d'être venu. Puis là, on a quelqu'un de Québec.
Yes.
Majoritairement, on a plusieurs gens qui sont de Montréal, qui viennent à l'émission, etc.
T'as réussi à le perdre quand même, Jeff. T'as réussi à l'envoyer.
Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. C'est mon erreur. Pour mettre les auditeurs en contexte, là, j'ai fait une faute de frappe qui était au moins la bonne rue, mais pas le bon numéro civique. Quand même. Pierre-Yves, t'es président directeur général quand même d'une jeune entreprise, Oikos Construction. T'es ingénieur mécanique de formation. T'as été aussi à l'emploi de BC, qui est quand même une grande compagnie dans la construction. Tu nous disais en pré-entrevue que t'avais fait aussi l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis il y a plusieurs entrepreneurs qui se sont développés aussi un hype avec ça, là, tu sais, l'école entrepreneurship de Beauce qui fait en sorte que go, on fonce, go, on avance des projets, etc. C'est sûr que ça a dû t'aider, ça?
Absolument. Le B, c'était pour moi, tant au point de vue professionnel que personnel, une des plus belles expériences de ma vie. J'ai vraiment réussi à me développer énormément des deux points de vue, là.
Cool. Puis après ça arrive Oikos Construction. Ça a parti à quel moment, ça?
Ça fait maintenant 6 ans. C'est notre 6e année d'opération. Alors, comme tu disais d'entrée de jeu, moi, j'étais à l'emploi de BC, un gros entrepreneur général à Québec, où est-ce qu'on faisait des projets d'envergure qui étaient vraiment trippants. J'ai adoré mon parcours là-bas, mais j'avais vraiment la fibre entrepreneuriale en moi. Je voulais vraiment partir en affaires. Alors, j'ai décidé de partir en construction, pas mal la seule chose que je savais faire. Alors, j'ai parti d'entreprise Oikos Construction il y a 6 ans. Puis c'est ça, puis on a une super belle croissance depuis les tout débuts,
là. Puis une super belle croissance, attends un peu, là. Une méga ultra croissance, là. C'est quand même pas rien, là.
Effectivement, puis comment t'as fait un peu la transition? Parce que là, c'était plus du génie mécanique, génie civil, là, BC, là, c'était vraiment plus en construction.
Ouais, ben exactement. Moi, je suis ingénieur mécanique de formation, puis là, il y a plein de gens qui se demandent c'est quoi mécanique. C'est pas nécessairement mécanique du bâtiment, c'est pas nécessairement mécanique automobile. C'est vraiment mécanique au sens très large, là. Fait que moi, attends, chez EBC, j'étais un petit peu le mouton noir, parce que la plupart du monde, c'est des ingénieurs civils. Puis, tu sais, un ingénieur, c'est plus, en gérant de projet comme ça, c'est plus un gestionnaire qu'autre chose. Alors, chez EBC, j'ai développé tout mon côté en tant que gestionnaire. Puis c'est vrai que quand j'ai quitté, moi, je faisais essentiellement des parcs éoliens. C'était des projets qui étaient multidisciplinaires. On faisait des routes, on faisait des réactions d'éoliennes, on faisait des postes élévateurs. On touchait vraiment à tout au niveau de la construction. Puis quand j'ai commencé dans le résidentiel, mais effectivement, il y avait des petites choses que on n'était pas nécessairement à l'aise, mais j'étais un gars qui, depuis que je suis tout petit, à toutes les fois qu'il y a un chantier, je m'arrête puis je regarde comment ça se passe. Ouais. Fait que c'était assez... C'était assez...
La curiosité a toujours été présente.
Absolument.
Puis, tu sais, tu parlais d'éoliennes, puis on est allé en fin de semaine avec les enfants au Mont-Radar, là, puis c'est impressionnant comment que c'est grand. Ouais. Tu sais, dans le paysage, on les voit toujours au loin, là, mais quand on arrive proche, là, c'est impressionnant.
Ouais. Ouais, c'est d'ailleurs un parc éolien que j'ai travaillé dans Bellechasse, là, au Massif du Sud, à 75 turbines. C'était un super beau projet, là, qui a duré 2 ans.
Puis après ça, vous avez plusieurs réalisations que vous avez déjà faites. Vous avez quand même là un portfolio très rempli. Puis, tu sais, le premier projet de Oikos Construction, c'était quoi? Une propriété unifamiliale, un duplex?
Ça, c'est une super bonne question parce que quand j'ai quitté EBC, j'avais aucun client et aucun projet devant moi. Là, je venais vraiment de me jeter. Puis, j'ai décidé de faire un jumelé pour le mettre à vendre. Puis, c'était un super beau jumelé. Mais j'ai jamais réussi à le vendre. Alors, il va partir encore aujourd'hui. Puis, il est chelou présentement.
OK, quand même.
Alors, c'était notre premier projet.
Puis après ça, mais dans les autres projets que vous avez en cours actuellement, ben une des fiertés que vous avez, c'est un projet à Saint-Romuald.
Absolument. À toutes les années, on fait des projets de plus en plus d'envergure. Alors, nos fiertés évoluent avec le temps. Présentement, on est en train de construire le Focus, qui est un gros complexe multirésidentiel. On a 2 tours, une tour de 10 étages puis une tour de 12 étages, à côté de Costco à Saint-Romuald.
Oui.
Alors, c'est le projet, le plus gros projet à date.
Pour lequel vous êtes promoteur et constructeur.
Exactement. Alors, on est promoteur-constructeur. Alors, c'est un projet où est-ce qu'on a fait un offre d'achat sur le terrain. On a tout développé avec les architectes, les ingénieurs. On a trouvé des investisseurs puis on est en train de le bâtir présentement.
Puis, ça fait combien de logements dans les deux phases?
C'est 205 logements en tout, plus un 10 000 pieds carrés commercial au rez-de-chaussée d'un des deux immeubles.
Wow. Sur 2 tours, c'est ça?
Exact.
OK. Puis là, il y en a une qui est...
Il y en a une qui est pratiquement finie. Là, on est à 75% d'avancement. Là, puis on est en prélocation. On livre ça pour juillet 2021. Là, on a décidé de retarder un petit peu la prise de possession à cause du COVID, le confinement. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec la deuxième vague. On n'a pas pris de chance. On était supposé livrer en mars, mais on l'a déplacé au mois de juillet. Là, on sait qu'au Québec, le 1er juillet, c'est toujours
une bonne date.
Pour ça. Fait qu'on a décidé de retarder au 1er juillet. Puis présentement, on est à 43% de prélocation. Fait qu'on est très, très, très heureux, là.
C'est quand même super cool. Puis des gros projets de 205 unités sur la Rive-Sud, il s'en fait pas non plus tant que ça, là, pour du locatif.
Effectivement, il s'en fait quelques-uns, là, mais c'est assez rare.
C'est toute l'équipe autour de vous. Aviez-vous toute l'équipe de vente? Aviez-vous fait d'autres projets ou c'était vous qui faisiez cette portion-là de...
Pour ce qui est des ventes, on s'est vraiment affilié à des agents qui sont spécialisés là-dedans. C'est moins notre tasse de thé à nous. Là, on le fait pas à l'interne, on le fait vraiment à l'externe. La même chose pour tout ce qui est le marketing. Là, on a travaillé beaucoup avec Graph et Synergie là-dessus, qui ont tout fait notre image de marque, notre site web et tout. Puis, c'est ça.
Puis les unités, c'est quoi que vous visez en fait? C'est quel type de clientèle, quel type de finition d'unité?
4,5, 5,5.
Ouais, c'est ça.
Nous autres, on est vraiment du loft jusqu'au 5,5. Puis moi, j'aime pas vraiment nous positionner en termes de luxe, là, mais je nous positionne en termes de grande qualité. C'est-à-dire qu'on a des contours de pierre, c'est-à-dire qu'on a de la céramique partout dans les entrées, dans les salles de bain, dans les cuisines, tout de bon goût. On met des choses qui sont là pour durer longtemps. Hein. On veut une belle pérennité dans nos appartements, mais on met pas des choses luxueuses, comme des foyers, puis des choses, des logements sur 2 étages. Fait que c'est un peu notre définition de luxe à nous.
Là. Dans ce sens-là, j'ai une question peut-être assemblée pour toi, mais quand tu as d'autres gros projets à côté, comme mettons le Méribel ou le Chico qui développe d'autres gros, est-ce que tu essaies justement de te coller à eux puis de voir un peu le type de produits qu'ils font, la location qu'ils peuvent atteindre, ou tu te dis je vais essayer d'aller dans le champ gauche et présenter d'autres choses?
Non, assurément, avant de débuter, on engage des professionnels qui font des analyses de marché, puis nous-mêmes, on fait notre propre analyse de marché en interne.
Okay.
Alors, j'ai un gars qui va visiter tous les compétiteurs partout, qui prend plein de photos, on monte un gros chiffrier Excel, on regarde les bons coups et les mauvais coups de chacun, puis on essaie de prendre les bons coups de tout le monde, sans prendre les mauvais coups. Fait qu'effectivement, mettons, j'ai le Méribel qui est en face, directement en face du projet, mais lui, il a des tout petits balcons. C'est le clientèle récurrent qu'on voit de la clientèle. Fait que nous autres, de notre côté, ben, on essaie de faire des balcons plus grands pour aller chercher un peu ces gens-là.
Pour aller dans un offre un peu plus large, puis aller chercher d'autres clientèles.
Absolument.
Puis tu sais, des fois, ça peut cibler exactement la même clientèle, mais le client va préférer le vôtre, ouais, justement aussi, parce que vous avez le grand balcon versus les autres qu'ils ont pas. Puis c'est super intéressant, ça, parce que nous, on le fait une fois par année de faire l'analyse de nos compétiteurs. Puis tu sais, là, j'essaie de me trouver des moyens de parler aux clients des compétiteurs pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas.
Ah, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à l'école d'entrepreneurship de Beauce, là. C'est, on appelait ça nos molécules, là-bas à l'école, puis les molécules, c'est tout le monde qui sont autour de nous, autant compétiteurs que directeurs de banque, que clients, que fournisseurs, que n'importe quoi. Puis, depuis que j'ai fait mon parcours là-bas, je prends le temps d'aller dîner ou d'aller déjeuner avec mes compétiteurs. Fait que j'étais allé dîner avec Michel Parent de Logico, on a parlé de ses projets qu'ils ont fait de chaque côté, puis c'est là que je recherchais beaucoup d'informations.
Ouais. Puis définitivement, cool, que know your enemy, là, c'est toujours bon dans business. Puis tu sais, dans le fond, c'est pas des ennemis non plus.
Non, c'est ça.
C'est des collaborateurs qui font en sorte qu'ils permettent d'évoluer puis de grandir aussi selon leur expérience.
Absolument, c'est de la saine compétition.
Exact. Puis d'autres projets que vous avez à venir, là, qui est quand même super intéressant, qu'on avait parlé en pré-entrevue, il y avait la requalification du golf à Stoneham. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus?
Oui, absolument. Alors, on sait que depuis quelques temps, les terrains se font de plus en plus rares, puis le golf est un petit peu moins au goût du jour, malgré qu'avec le COVID, ben, il y a une...
Ça a été une belle été pour ça.
C'est une belle été, effectivement. Alors, à Stoneham, là, la population, il y a de plus en plus de gens qui veulent demeurer à Stoneham. Les terrains se font de plus en plus rares. Alors, c'est une opportunité qui est venue à nous. On est en train de faire vraiment la requalification du golf de Stoneham, qu'on appelle. Alors, ça va être un projet récréotouristique, là, d'envergure. Présentement, le golf qui est 36 trous, puis on le passe sûrement entre 18 et 21 trous. Alors, pour le reste du terrain, c'est là qu'on va vraiment développer notre récréotouristique. Alors, on veut faire le clubhouse, il est désuet. On veut refaire un nouveau clubhouse, attirer un hôtelier sur ce site-là, faire du locatif court terme et... aller chercher le plus d'attraits récréotouristiques, ouais, possible. Comme on a fait des consultations citoyennes, ben les gens disent que ce serait le fun d'avoir du ski de fond sur le golf l'hiver.
Ouais.
Bon, ben, ça, c'est une super bonne idée. Fait que on veut trouver quelqu'un pour mettre ça en place. Il y a beaucoup, beaucoup de fat bike, énormément dans ce coin-là. Ouais. On veut devenir un pôle aussi pour le fat bike dans ce coin-là. Puis on regarde pour mettre le plus d'activités possible.
Puis le but, c'est d'avoir une bonne dynamique avec le parcours qui va rester, tu sais, pour que le golf ait une santé financière. Puis
ouais, absolument,
d'être là, parce que je suis allé dernièrement, je pense que c'était à Belleuil, au club de golf de Belleuil, qui ont un peu le même enjeu avec la ville de vendre. Puis, tu sais, certains de mes collègues qui connaissaient mieux le dossier disaient ils vont peut-être vendre la moitié, ils vont bâtir des condos avec accès sur le golf, puis est-ce que dans 5 ans ils vont racheter l'autre bord puis ils vont bâtir des condos? Fait que finalement les gens ont plus vu sur aucun golf, c'est vraiment qu'ils rachètent des condos.
Ça, c'est une crainte que des gens y avaient, mais le zonage puis le schéma d'aménagement le permet pas. Alors, okay, c'est carrément impossible que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on fasse quelque chose d'autre.
Tant mieux.
Puis dans 100 ans, là, peut-être, ouais, que les générations font d'autres choses, ouais, mais c'est aucunement dans les cartons. Là, c'est vraiment de revigorer le golf puis, ouais, d'améliorer le parcours restant également.
Quand même, d'entrée de jeu, là, on a un portrait projets, quand même super intéressant. Vous savez que notre émission est toujours disponible en podcast sur notre site internet jean-françois-morin.ca, mais c'est aussi disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balados. On a ça, Balados. je tiens à vous remercier tout le monde. On revient tout de suite après la pause avec Pierre-Yves Charest, président directeur général de Arcos Construction. On est de retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion, mon co-animateur depuis déjà 4 saisons.
3 ou 4.
Ouais, quand même.
Quatrième.
Ouais. C'est quand même super cool. Je te remercie encore, Kevin, de partager...
toujours un plaisir.
Ces beaux moments avec moi. Aujourd'hui, on est avec Pierre-Yves Charest, président directeur général de Oikos Construction. Je m'excuse, j'allais encore, tu sais, le scraper, je m'excuse.
Regarde-moi, je vais te le faire, Jeff. Oikos Construction.
Merci. Mais justement... On peut pas passer sous silence l'origine de ton nom d'entreprise. Ça vient de où?
Exactement. Ben, comme je disais d'entrée de jeu, moi, étant ingénieur mécanique de formation, j'ai eu un cours à l'université que j'ai adoré, qui était les transferts thermiques. Puis j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les maisons. Alors, j'ai assemblé les deux. Puis ça, c'est là qu'on s'est mis à faire des maisons à très haut rendement énergétique. Alors, Oikos, en grec antique, ça veut non seulement dire la maison, mais toute son interrelation avec l'environnement. C'est un mot qui est plus global, fait que c'est un mot qui était prédestiné à faire, pour le nom de notre compagnie, pour les raisons beaucoup, qu'on faisait. C'est ouais. ça,
qui se collait beaucoup à votre vision puis votre mission d'entreprise.
Exactement. Maintenant, c'est rendu extrêmement marginal au sein de l'entreprise. On en fait de moins en moins, mais on a toujours cet intérêt-là. Là.
C'était-tu surtout ce que vous aviez développé dans Charlevoix? Ou
non, pas nécessairement. On en a fait un petit peu partout, okay. À gauche et à droite. Là.
Okay. Puis au niveau de la COVID-19, là, c'est sûr que ça a amené beaucoup de changements pour plusieurs entreprises, dont la construction. Est-ce que pour vous, vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu pendant cette période-là?
Écoute, ça fait quand même quelques mois déjà, puis tout le monde connaît bien la COVID-19, puis tous ces rebondissements avec la deuxième vague, tout ce qui se passe. C'est sûr qu'au début, là, on a eu une certaine crainte. Là, on a mis le genou à terre un peu, puis on a dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait encore avec ce nouveau défi-là? Mais on se considère extrêmement chanceux parce que le domaine de la construction, c'est un domaine qui est reparti très rapidement. C'est un des premiers domaines qui est reparti. Puis en plus de ça, nous, notre créneau, c'est vraiment le multilogement. Puis en ce moment, dans la construction, c'est le créneau qui se porte le mieux. Alors, on est extrêmement chanceux. La seule chose, c'est qu'on risque d'avoir un petit peu plus de compétiteurs dans les parcs, étant donné que le créneau va bien, là.
Puis une des choses qui est importante, tu dis, tu sais, le marché immobilier, puis la construction a repris rapidement. Une grosse partie de l'économie québécoise repose sur la construction, si c'est pas la 50% quasiment de l'économie. Puis d'autres choses aussi par rapport à ça, tu sais, on disait qu'on avait une crise de logement. Il y a une réalité qui va être différente aussi tantôt, où ce que les gens qui étaient capables de peut-être s'acheter une propriété ne passeront plus au ouais. financement parce que là, les caisses, les banques
vont
resserrer les normes, incluant les assureurs comme la SCHL.
Mais juste avec les banques, qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous, on est toujours en demande de financement pour un projet à gauche puis à droite. Puis il y a eu un resserrement extrême avec les banques au début. Ils nous avaient fait des propositions qui ont retiré au début ouais. du COVID, là, pendant les six premières semaines, c'est incroyable. Puis après ça, c'est redevenu graduellement à la normale, mais on a eu des sueurs froides avec ça.
Ouais. En plein milieu du projet Focus.
Oui, exactement. Ben, lui, on avait déjà le financement. Ouais.
Ouais. Mais quand même, pour la portion construction, vous avez dû mettre ça ses breaks pendant quelques semaines au début du
COVID. Ben, on a arrêté, vous veux pas. On a arrêté pendant quelques semaines. Puis c'est pour ça qu'on a retardé également là, la livraison du projet. Là.
Puis au niveau de Oikos Construction, vous avez eu aussi une fusion récente, aussi pendant la période du COVID ou du confinement?
Absolument. On est extrêmement heureux de ça. Nous, dans le fond, pour faire une histoire, c'est que il y a 2-3 ans, on a commencé à devenir promoteur entrepreneur et non juste entrepreneur parce qu'on voulait de la clientèle récurrente. Puis la clientèle récurrente, elle se trouve surtout dans le domaine commercial. Puis nous, on est assez jeune. Alors, c'est toujours difficile de percer. C'est un peu une niche gardée, le domaine commercial. Alors, il y a une opportunité qui s'est présentée à nous pendant le confinement, pendant le COVID au départ. On a fait une fusion avec Dutrain Construction, qui est très bien établie sur la rive sud ici à Québec depuis au-dessus de 30 ans, qui est vraiment dans le domaine commercial, un créneau que moi et mon associé, on voulait rentrer depuis longtemps.
Puis, justement, le créneau commercial, je veux pas dire très peu d'entrepreneurs se spécialisent là-dedans, mais il y a une niche plus gardée aussi. Là. Il y a beaucoup moins d'entrepreneurs qui s'y intéressent aussi.
C'est souvent des entrepreneurs qui ont des feuilles de route beaucoup plus longues que nous présentement.
Mais il y a des barrières à l'entrée. C'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent arriver. Ne serait-ce que par le volume des projets, le nombre d'employés qu'on doit avoir.
Puis c'est surtout une question de contact également.
Aussi, effectivement.
Puis au niveau de l'entreprise, vous vous situez, par exemple, à combien d'employés à l'intérieur de votre business? Puis c'est quoi la vision, par exemple, des 12 prochains mois pour votre entreprise?
Ben, tout est partout, avec Oikos, avec Dutrain, on a également d'autres petites sociétés en gestion immobilière, tout ça, là, on est rendu à plus de 70 employés, puis on projette d'avoir un chiffre d'affaires au-dessus de 60 millions là, dans les 12 prochains mois, là, toutes les compagnies rassemblées ensemble.
Wow!
Impressionnant.
60 millions, c'est impressionnant, là, c'est 5 millions par mois.
Puis on parle d'une entreprise qui a 6 ans.
Exactement.
Quand même, hein?
C'est impressionnant.
Ouais, on n'arrête pas de doubler ou tripler ou quadrupler notre chiffre d'affaires d'année en année, là.
Wow. Puis tu sais, on arrive à des résultats comme ça, puis une croissance aussi rapide, on réussit à gérer ça de quelle façon, puis on arrive à ces résultats-là de quelle façon?
Ben, c'est sûr qu'il faut mettre la table dans des projets immobiliers, c'est des projets qui se développent sur 12 mois, 18 mois, 24 mois. Fait que le chiffre d'affaires qu'on a là, on le voit venir depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, parce que c'est des gros projets qu'on travaille tous de front puis qu'on développe pour On a quand même été en mesure de le prévoir, mais c'est sûr qu'à chaque 6 mois, on est toujours en train de restructurer l'entreprise, de replacer le monde différemment, embaucher du personnel. On dirait qu'on est un petit peu toujours sur la dérape. Moi, j'aime ça quand tout est structuré. Ouais. Ouais. Force est de constater que notre croissance est tellement grande qu'il faut toujours se restructurer. Ouais. Là.
Certains disent que si tu perds pas le contrôle, c'est que tu vas passer vite.
Écoute,
tu trouves le juste équilibre, mais tu vois, l'année passée, on avait reçu aussi Stéphane Boutin, je sais pas si tu connais,
oui, qui fait
du développement, puis il disait, par rapport à son projet ici de Humano, que c'était-tu comme 3-4 ans d'avance, ou même presque 5 ans qu'il y avait...
Ouais, ça, c'est un projet majeur avec des infrastructures routières, puis il y a beaucoup plus de parties prenantes. Là, que
ouais, il y a du politique là-dedans.
Exactement.
Mais reste que toi, comme tu dis, ton chiffre d'affaires, tu le vois venir, parce qu'un projet comme Focus ou le golf de Stoneham, tu travailles pas ça quelques semaines avant de faire la première pelletée de terre. Là.
Exactement.
C'est sûr, exact. C'est sûr que l'acquisition du terrain versus la négociation avant, le démarchage du terrain, tout ce qui se passe avant et sur une longue période, parce que tu sais, bien qu'un moment, il faut que tu aies un avis favorable aussi de la municipalité pour qu'elle dise oui, c'est correct, on va travailler avec toi dans le même sens.
Ouais.
Puis après ça, ben il y a des projets en cours que tu dois livrer aussi, fait que tes ressources, tu dois les prévoir dans le temps. Fait que tu sais, il doit avoir un gros board là chez vous avec le calendrier des deux prochaines années là.
Ouais, absolument. Puis en plus, ça se complexifie un peu parce qu'on est rendu avec 2 sièges sociaux, si on veut, avec Oikos et Dutran. Fait que là, ça, c'est un petit peu plus difficile au niveau des communications. Fait qu'on essaie de toujours améliorer ça. Là.
Puis une de vos démarches, puis on en a parlé un petit peu tantôt, c'est de livrer des projets clés en main. Puis c'est quoi votre façon de faire pour livrer vos projets clés en main?
Nous autres, dans le fond, on aime ça que le client vienne quand il y a une idée, que le projet il n'est pas encore conçu, il n'est pas développé. Puis nous autres, on y fait une offre de service qui s'appelle un PGGI, là, Planification, Gestion et Gérance Intégrée. Fait qu'on fait signer avec un pré-contrat avec le client, puis on l'aide à développer son projet. C'est-à-dire engager les architectes, faire les tests de sol, les tests environnementaux, engager des ingénieurs, réfléchir au projet, puis tout ça en toujours en le cadrant dans un enveloppe budgétaire. Fait qu'on sait qu'au final, nous, on est payé seulement si on bâtit le projet. Alors, c'est ça que les clients aiment chez nous.
Okay. Fait que, tu sais, vous avez développé... Ce que je comprends, c'est que vous avez développé à l'intérieur de votre entreprise votre méthodologie pour arriver à des projets. Fait que, tu sais, par exemple, je pourrais avoir un terrain de 12 logements, je sais pas quoi faire avec, mais tu sais, je pourrais aller m'asseoir chez vous, puis vous allez pouvoir le démarcher avec moi pour le construire.
Absolument, c'est une méthode qu'on a commencé à développer, je veux pas sans savoir trop comment qu'on allait faire ça, puis ça fait 2-3 ans qu'on la développe, mais avec Dutran, le fondateur, Pierre Tremblay, c'est quelque chose qui avait déjà... éprouvé. Alors, on a fait un bond de 10 ans en avant là, grâce à ses conseils judicieux et à ses méthodes de présenter des projets.
Des propositions. Ouais. Ça, c'est super intéressant. Puis, à quel point vous cherchez justement à aller chercher une certaine clientèle qui arrive avec des projets versus vos propres projets que vous menez de front, tu sais, c'est en termes de proportion?
Je te dirais que la proportion, c'est toujours difficile hein, parce qu'on a des gros projets d'envergure versus plusieurs petits projets qui viennent des clients, mais on est toujours extrêmement intéressé à recevoir des projets pour tes clients, des développeurs, des gens qui veulent venir nous voir, qui ont justement un terrain pour faire un 12 logements puis ils savent pas comment s'y prendre. Nous autres, on est vraiment là pour optimiser dès le départ la conception pour que ça coûte le moins cher possible au pied carré.
OK. Fait que c'est surtout des propriétaires, en fait, des gens qui ont des terrains puis qui n'ont pas l'expertise pour ça.
Exactement, ou des gens qui sont en affaires puis qui ont des commerciales à bâtir.
Okay. Ah, puis tu sais, ça pourrait être un gars comme moi, par exemple, qui veut faire un buy-in, puis tu sais, que je te contacte directement. Écoute, j'ai pas les ressources, j'ai pas nécessairement le temps de me trouver une opportunité. Est-ce que toi, tu pourrais me trouver quelqu'un qui serait intéressé?
C'est ça, des compagnies qui sont opérantes dans d'autres milieux, qui disent, moi, j'ai besoin d'un entrepôt de 50 000 pieds carrés, j'ai pas le temps de m'occuper de ça parce que ma business me prend trop d'énergie. Ben, viens chez nous, signe un mandat, puis nous autres, on va tout le développer au complet dans un cadre budgétaire, dans une enveloppe qui est prédéterminée.
Quand même super cool. Oui. Puis une des choses que je trouvais qui était intéressante en pré-entrevue, c'est que tu disais aussi que tu étais en mesure de pouvoir faire une évaluation du niveau de risque, si on veut. Tu sais, à savoir si tu es acceptable comme niveau de risque, puis est-ce qu'on peut rentrer dans l'enveloppe budgétaire? Parce que c'est pas juste une question aussi de soumission ou de calcul ou de chiffres.
Oui, absolument. Il y a des clients qui viennent nous voir avec des terrains et on leur dit malheureusement, votre terrain, il n'est pas bien situé, il ne sera pas rentable. Il y a trop de contamination sur le terrain. Et il y a beaucoup de clients qu'on les décourage, mais qu'on leur dit désolé, votre projet.
Les projets qui se font pas.
Ça pourra pas se faire. C'est ça. On ne travaillera pas dans le vide pendant un an pour le développer si on sait qu'à l'autre bout, il ne sera pas rentable, il va y avoir trop de risques environnementaux. Ça, c'est quelque chose qu'on met au clair avec le client dès le départ. ça arrive trop souvent dans l'industrie de la construction que quatre entrepreneurs font soumissionner quatre plombiers partout pour un projet qui ne se réalisera jamais.
Ah, c'est ça, fait qu'on fait travailler du monde dans le vide.
C'est ça. Nous autres, on ne met pas d'énergie là-dedans. Là. Nous autres, les clients qui viennent nous voir avec un plan déjà tout fait puis qui veulent soumissionner, qu'on soit un des six soumissionnaires, mais c'est pas quelque chose qu'on fait. Nous autres, souvent, on va conseiller le client puis on va tout refaire ses plans au complet pour diminuer le prix de son projet ou bien le faire cadrer dans son enveloppe.
Parce que comme on disait, dans le fond, durant la pause, vous avez quand même une grande aversion au risque parce que vous avez eu une croissance super rapide, mais reste que les clients qui viennent vous voir n'ont pas toujours ce même degré-là. Ou, dans le fond, vous jouez un peu avec ça dans vos propositions aussi, j'imagine.
Oui, absolument. Absolument. Ça dépend vraiment du type de client, du type de projet qu'on se fait présenter.
Fait que dans vos projets clés en main, vous démarchez le projet, vous faites un genre de teaser, présentation. Aussi, si jamais c'est des projets pour la revente ou quelque chose comme ça, vous trouvez des investisseurs. J'ai déjà vu aussi un montage financier déjà prêt pour un 8 logements. Je trouvais ça super intéressant. Puis je suis même intéressé personnellement, je suis pas prêt encore. Là, je suis encore toujours en conflit avec moi-même sur qu'est-ce que je fais. J'optimise-tu plus ou je fais du levier ou j'achète du long terme. Fait que je suis toujours déchiré encore. Vous cherchez, là, vous faites la démarche au niveau permis, vous pouvez le construire. Puis tu sais, vous êtes capable de faire pas nécessairement juste des projets d'envergure, mais vous pouvez aussi faire des plus petits projets, des 6, des 8 logements, 12 logements, vous ne limitez pas à ça, là.
Ah, exactement. On n'a pas vraiment de limitation. On fait de la maison à 300 000, on fait de la maison à 2 millions, puis du multilogement, on en fait du 4 logements jusqu'à des tours de 100 logements, là.
Et faites aussi du résidentiel encore.
Oui, absolument. On a une branche résidentielle. Moi, j'ai toujours adoré le résidentiel, puis c'est un domaine qu'on veut pas lâcher, là.
Il y a des gros constructeurs qui reviennent à ça aussi. On a vu Dalcon, il me semble, qui est revenu dans... qui est juste allé vers là, là. Il me semble qu'il n'était pas là par le passé.
Ouais, ça a plus ou moins bien été, là, mais.
C'est pas toute l'éternité de l'histoire.
Ça a plus ou moins bien été, mais nous autres, là, on a des contre-maîtres qui sont vraiment habitués à faire du résidentiel haut de gamme, puis on a des contre-maîtres qui sont habitués à faire du commercial.
C'est deux mondes.
C'est deux mondes complètement différents. Oui. Mais tu sais, on est super fiers, justement, comme on disait d'entrée de jeu, ça fait 6 ans qu'on est en affaires. Présentement, on bâtit des maisons pour des clients à l'atelier Pierre Thibault. Ouais. Alors, c'est quelque chose qu'on est super fiers, exactement.
Fait que vous êtes positionné là, puis ces plus petits projets-là vous permettent aussi de placer des plus gros à plus long terme, nécessairement.
Oui, mais ça nous donne une flexibilité sur la main-d'œuvre. Quand on a des rushs à quelque part, on est capable de prendre de la main-d'œuvre sur des gros projets qui n'y a pas vraiment nécessairement un rush puis des matériaux.
Oui, c'est ça, effectivement. Ça amène de l'eau au moulin pour être capable de toujours fournir votre monde, garder votre personnel.
Oui, puis ça nous donne un pouvoir d'achat qui est vraiment intéressant. Là, quand tu signes un contrat pour acheter 200 000 pieds de couvre-plancher pour un projet comme le Focus, ben quand tu es rendu avec le même fournisseur pour acheter le plancher de monsieur, madame, ben, ça te donne...
Il y a une bonne oreille pour tout.
C'est ça, exactement.
Effectivement.
C'est quand même super cool. On est avec Pierre-Yves Charret, président directeur général de Oikos Construction. La bulle immobilière est diffusée toujours les samedis de 11h à midi. On tient à remercier aussi Kevin Pépin, nouveau commanditaire pour la saison 2020-2021 avec Copy Management. Restez après l'émission pour avoir accès à sa chronique.
Pas pour les doux, ça, mon homme!
On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier ici dans la région de Québec. On fait autant Rive-Sud que Rive-Nord, tant qu'à le dire, aussi bien se plugger comme il faut. Je suis toujours avec Kevin et Pierre-Yves Charret, président directeur général de Oikos Construction. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de parler de ton entreprise si ouvertement, parce que, tu sais, on a toujours un peu de petites recettes puis de petits trucs qu'on veut garder pour nous en privé. Puis, tu sais, le fait d'être ouvert puis de nous en discuter, on l'apprécie énormément. On te remercie par rapport à tout ça. Une des choses qu'on a parlé, c'était beaucoup des projets, les projets clés en main que vous faisiez aussi pour des clients. Mais ça doit arriver, ça, des projets que ça soit pas facile ou que on arrive avec des embûches ou des épreuves qui font en sorte que tout le projet peut être mis en question ou peut-être même arrêté. Ça l'arrive-tu?
Ça l'arrive assez régulièrement. on a plein de beaux exemples pour vous. Un des plus historiques dans la compagnie, c'est un projet qu'on avait acheté le terrain en 2016, puis on vient juste de le livrer cette année au 1er juillet 2020. C'est un projet sur l'avenue Royale, où est-ce qu'il y avait deux paliers décisionnels, c'est-à-dire qu'il y avait le gouvernement avec le ministère des Cultures et des Communications, puis il y avait la Ville de Québec. Alors, même leurs commentaires étaient contradictoires d'un à l'autre. Puis ça a pris 4 ans à avoir le permis, puis ça a tellement été long qu'il y a des gens qui sont partis à la retraite, des nouveaux qui sont arrivés dans le dossier avec des idées différentes. Fait que c'était vraiment la maison des fous d'Obélix. Là. C'était incroyable pour avoir ce permis-là.
Puis tu sais, en plus, t'en parles, tu sais, souvent à l'interne, la main droite parle pas à la main gauche au niveau de la municipalité.
Imagine fait deux entités, là.
Deux entités qui ont deux mains qui se parlent.
C'est toi qui relie. C'est toi qui est quasiment en communication.
Il a fallu qu'on fasse un changement de zonage en plus, parce qu'au début, on avait acheté le terrain pour faire 2-6 logements. Finalement, on a bâti 1-8 parce que le ministère, il voulait pas qu'on lotisse le terrain, là, parce que c'était dans un secteur patrimonial.
OK.
Puis même au courant du développement, à un moment donné, quand on a redéposé une énième fois une demande de permis, on s'est rendu compte que les marges avaient toutes changé versus au départ, sans qu'ils nous le disent, puis ils savaient qu'on travaillait sur ce projet-là. Fait que encore une fois, on a redéposé une demande de permis différente.
Puis tu sais, au-delà de la demande de permis, c'est tout le travail qui est investi puis réfléchi aussi en amont, là, qui était fait pour le projet, que là, tout doit être revu, les plans doivent être revus.
Oui, puis c'est les pertes d'opportunités, parce que quand tu mets de l'argent sur un terrain, sur un projet, on ne pensait pas le mettre pendant 4 ans là-dessus. Exactement.
Le fond, là.
Mais là, regarde, on est rendu à leur financer, les taux d'intérêt sont à terre. Bon, des fois,
L'opportunité se présente pareil.
Exactement. Un moins pour un plus.
Exactement.
Puis il n'y avait pas un projet aussi de maison que vous aviez acheté pour faire un projet de construction, puis qui, encore une fois, est arrivé des bâtons dans les roues?
Oui, effectivement, c'était assez particulier encore cette fois-là. On faisait un montage, on achetait deux maisons côte à côte pour faire un 20 logements. C'est des personnes âgées qui nous vendaient les maisons. On l'a mis conditionnel au permis. Ça faisait 4 mois qu'on était en demande de permis. La Ville de Québec nous demandait de tasser des petites choses d'un pied, deux pieds. On était vraiment, là, on sentait qu'on avait le permis d'une journée à l'autre. On était sur le fine-tuning, comme on dit. Puis les clients n'étaient plus capables d'attendre qu'on achète les maisons. Fait qu'on a décidé d'acheter quand même les deux propriétés. Puis 2 jours après qu'on ait passé chez le notaire, la Ville nous a fait un changement de zonage. Alors, on est passé de 4 étages à 3 étages. On est passé de 20 logements à 6 logements. Fait que là, on s'entend que le prix du terrain qu'on avait payé, ça marchait plus dans notre chiffre. Ouais.
Fait que... Il n'y a pas beaucoup d'addons là, dans la vie. Là.
Non, hein? Exactement. C'était une étape difficile parce que on s'est battu avec la Ville, on les a mis en demeure. Puis à un moment donné, comme entrepreneur, il faut que tu prennes des décisions. Fait qu'on s'est dit soit qu'on se bat avec la Ville pendant des années puis ça nous coûte des gros frais en avocat, ou soit que, justement, on laisse pas dormir notre argent là, puis on fait un projet qui est peut-être moins rentable, mais au moins, notre argent va continuer à rouler, puis on va aller ailleurs. Ouais. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a fait 2-6 logements, finalement, sur ce terrain-là, qui se sont avérés un super succès.
Oui, puis c'est bon, ça, parce que, ultimement, faut pas que tu perdes ta confiance en tes projets aussi. T'sais, quand tu as des embûches comme ça, faut pas que tu perdes ton élan ou que tu te dises... Prochain projet que je regarde, est-ce qu'il va m'arriver ça? Est-ce
Exactement.
Qu'ils vont me sortir tel lapin de leur chapeau?
Oui, puis c'est aussi les employés à l'interne. Hein? Si tu as 2-3 revers sur des projets différents, là, ils commencent à se questionner. C'est quoi qu'on va faire? Sur quoi qu'on va travailler? On
travaille-tu dans le vide en ce moment?
C'est ça, sont-tu vraiment capables de développer les projets ou pas, finalement?
Oui, effectivement.
Puis là, tu leur dis, oui, parce que c'est toi qui le fais au départ. Non? Ouais, c'est mais c'est pas toujours comme ça. Puis c'est là aussi vient la partie où ce que tu mentionnais que c'est important de gérer son risque. Là, parce que tu peux pas nécessairement juste avoir des projets où ce que tout repose sur la décision du gouvernement ou de la municipalité. Il faut que tu aies des projets aussi dans le collimateur que eux autres vont passer freebie puis que ça va bien passer.
Exactement. Il faut que notre machinerie roule, faut que nos gars puissent travailler. Fait qu'on... On s'attelle, on fait différents types de projets.
As-tu déjà un plan B, déjà un plan C quand tu achètes un terrain ou tu dis juste, gars, all-in plan A, puis si j'ai un bâton dans les roues, on fera un brainstorm puis on y va.
C'est toujours all-in plan A, là, c'est ça qu'on veut faire.
Pas le temps de développer un plan B. Là.
Mais c'est rare que c'est le plan A qu'on prend.
Mais tu sais, comment veux-tu arriver à mettre 100% ton énergie juste sur un plan A, B, C? Tu sais, viens qu'à un moment donné, t'es mieux d'être all-in puis après ça, de faire des ajustements. Puis tu sais, il y a des façons de travailler aussi avec les municipalités. Des fois, on développe des liens peut-être plus privilégiés avec certains employés qui vont avoir un avis favorable, mais souvent c'est pas eux qui prennent les décisions. Fait que tu sais, mais des fois en ayant quelqu'un qui vient nous orienter comme il faut, puis tu sais, pour un projet vraiment basic, là, ma piscine que je veux poser chez nous, on est obligé d'être en dérogation mineure, etc. Fait que tu sais, j'ai appelé la ville, j'ai appelé le conseiller, j'ai appelé voir comment je devrais faire le montage de ma dérogation mineure, puis en discutant avec la personne, j'ai pris la personne qui prend les décisions, j'ai pris des notes sur c'est quoi les éléments importants. Puis ma demande de dérogation initiale est complètement différente versus celle qui a été déposée, payée, parce qu'on veut faire en sorte que ça marche.
De la manière qu'on dépose les choses, mais des fois, quand ça niaise longtemps, faut prendre un discours différent.
Faut que tu sois patient, comme tu dis, quand ça niaise longtemps, dans le sens que les autres, ils ont leur délai, ils ont leur échéancier, puis à un moment donné, tu te rends compte, t'as bien beau appeler pour mettre une certaine pression, il va falloir un peu que tu vives avec leur délire.
Ouais, des fois, c'est... juste savoir qui appeler, c'est pas le client.
Ouais, il y a ça. Déjà, savoir à qui parler, ça ouais. part bien. Puis comme tu disais, Jeff, pendant la pause aussi, d'aller, tu sais, c'est un processus itératif, d'y aller souvent, de prendre souvent le pouls, d'avoir des écrits aussi de, ouais. de ce qui te confirme, pas juste y aller verbalement par téléphone.
Ouais, ça,
c'est mieux
ça.
Que d'avancer un projet, puis là, de dire, ça serait ça mon projet, puis là, tu te le casses complètement.
C'est ça, mais tu sais, il faut toujours faire attention aussi pour les écrits des municipalités, puis tu sais, on garde ça en onde, mais on garde ça privé en même temps. C'est souvent bon pour le moment que tu l'as lu, parce qu'un coup que tu l'as ouais. lu, le message.
Il y a une petite clause, il y a un astérix
ouais,
en
exact.
Bas.
Puis le message disparaît après. Là.
Ouais. Puis aussi, tu parlais peut-être d'un projet majeur où tu as eu un revirement par rapport au tramway.
Oui, exactement. À cause du tramway, on a acheté un terrain. Là, ça fait plus d'un an qu'on est en train de développer, qu'on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'honoraires en architecture là-dedans. Puis aux audiences du BAP, dernièrement, ben, on vient d'apprendre qu'on était une des 37 expropriations totales. Bon, fait que là.
T'as pris ça à la télé ou tu l'as su au moins de façon privée?
La nouvelle.
OK, en même temps que.
La ville, il m'avait appelé pour me dire que mon terrain, il y avait possiblement qu'il allait me prendre une bande dessus. Puis là, finalement, ils ont passé ça en expropriation totale. Alors, ben, ça, c'était un autre revers. C'était un projet de 60 logements qu'on avait, qui était directement en face du terminus sur Henri Bourassa, là, à Charlebourg.
Ouais.
Puis, ben là, ben, on a le terrain, puis on attend que la ville communique avec nous, là.
C'est quoi la suite dans ce genre de dossier-là? Comment ça se passe? Comment ça se discute? Comment ça se gère?
Ben, il y a un évaluateur à la ville avec qui on va devoir négocier. Alors, nous, on a engagé notre propre évaluateur qui est en train de faire l'évaluation du terrain pour savoir ben, c'est quoi sa valeur actuelle aujourd'hui avec tout le développement qu'on a fait dessus versus la valeur quand on l'a acheté. Fait qu'on va le revendre à la ville à juste valeur marchande.
OK.
Puis ça, il n'y a pas de possibilité de dire, écoute, je trouve ton projet vraiment intéressant, mais non. Ça, on peut pas faire ça.
Ben, c'est la ville. Hein? Quand tu te fais exproprier, tu te fais exproprier.
Puis, dans le fond, je pose la question, mais que le projet aille de l'avant ou non? Je veux dire, je suis pas celui qui suit le plus le projet du tramway, mais ça se peut-tu qu'à un moment donné, il soit mis en dessous d'une pile ou que ça aille pas de l'avant? Puis, ben, tu as quand même acheté moment, ton terrain.
En ce moment, ils sont déjà en train de faire des travaux préparatoires un peu partout. Ils sont déjà en train de dépenser beaucoup d'argent. Fait que j'ai pas de boule de cristal, je sais pas si le projet va se faire ou va pas se faire. Là, j'ai bien l'impression que le projet va se faire. Mais ils sont déjà en train de dépenser de l'argent pour ça. Fait qu'ils vont passer aux expropriations quand même dans les prochains mois.
Puis ça, dans ta négociation, peut-être qu'on a un Q-line à te donner. Là, peut-être de prévoir que si jamais le tramway se réalise pas, que tu sois le premier à racheter à valeur que ça valait quand toi... pas à ton prix qu'eux autres l'ont acheté.
Ça pourrait être une option, mais mon terrain va perdre la valeur s'il n'y a pas le tramway.
C'est ça. Ça, c'est pour les mêmes raisons.
C'est ça. Quand même cool. Puis, écoute, c'est sûr qu'il y a un plan A, un plan B, un plan C. Il y a une ligne directrice qu'on trace. Tu sais, Kevin l'a dit, il ne faut pas que ça mine le moral. Puis, tu sais, d'avoir des défis à tous les jours, de dire, écoute, tu sais, d'avoir une entreprise, c'est un défi. D'avoir des ressources humaines, c'est un défi. Puis là, en plus d'amener des projets où ce que tu contrôles peut-être 50% de la donnée, parce que l'autre 50% va dépendre des municipalités puis des orientations que ça va prendre, ça doit pas être toujours évident de gérer puis de garder la motivation des troupes puis de s'assurer que ça fonctionne.
Ouais, mais avec l'expérience qu'on a quand on regarde un terrain, on est quand même capable d'analyser les risques. T'sais. Quand on a acheté le terrain sur Henri Bourassa, on savait qu'il y avait un tramway. Là, on écoute les nouvelles ouais. aussi. Là.
D'où le fait que tu l'as acheté.
T'sais. Exactement. Alors, quand on regarde un terrain, on regarde tous les risques environnants. Fait qu'on sait déjà s'il va être facile ou difficile à développer ce terrain-là. Fait que ouais. dans notre portefeuille, on amène un peu de tout pour être sûr d'avoir les projets qui sont peut-être moins rentables, mais qui sont faciles à développer. Là.
Puis tu dois l'aborder différemment aussi quand c'est pour toi, c'est toi le promoteur versus si c'est un client aussi. Tu sais, faut que tu gères ses attentes dans
ben,
ce sens-là.
On a les risques, mais on gère les projets pareil, que ce soit des clients ou que ce soit nos propres projets. Tu sais, souvent, on fait des montages financiers, qu'on a des investisseurs. Des fois, nous-mêmes, on est investisseurs dans les projets. Fait que tous les projets sont tous sur le même pied d'égalité. Mais c'est sûr que ben quand c'est ton argent à l'autre bout, ben, tu as les risques également.
Mais tu as toujours des comptes à rendre.
Exact.
À quelqu'un, quelque part. Fait que...
Exact.
C'est quand même vraiment surprenant de pouvoir t'avoir avec nous en studio puis de pouvoir partager votre croissance ultra rapide dans les dernières années là, parce qu'on parle d'une entreprise de 6 ans avec un profil de développement dans les 12 prochains mois de 60 millions de projets. Un gros bravo, un gros thumbs up. Pierre-Yves Charest, je te remercie d'avoir été présent à notre émission La Bulle immobilière.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Puis, vous voulez en connaître un peu plus sur l'entreprise Oikos Construction, ils peuvent consulter votre site Internet?
Exactement, oikosconstruction.ca. Toutes nos informations pour nous contacter sont là-dessus.
Sont là. Investisseurs, promoteurs, clients, résidentiels, commercial. Je vous suggère fortement d'aller consulter le site de Oikos Construction. Puis si jamais vous avez besoin d'informations, ben écoutez, réécoutez le podcast. C'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Merci tout le monde d'avoir été présent. Juste après, la zone parallèle.
96.9, The Alternative Radio Station.
Hey, salut Kevin, comment ça va?
Ça va bien. Kevin, moi, là?
Kevin, toi, oui, parce qu'on est avec Kevin Pépin.
Yes, sir.
Kevin Pépin, c'est notre nouveau chroniqueur. On a des chroniques de copy management qui est vraiment intéressant parce qu'il vient nous parler de plein d'informations sur le marché de l'immobilier, sur l'ensemble de la gestion immobilière. Au-delà de nous donner de l'information, c'est très éducatif, moi, je trouve, par rapport aux informations. Ouais. Puis c'est des podcasts qu'on va réécouter et réécouter pour être sûr de suivre la game comme il faut parce que c'est beaucoup de contenu en très peu de temps. Puis c'est très niché, très spécifique. C'est vraiment ça qui est intéressant. Comment ça va, Kevin?
Ça va super bien. Merci de l'invitation, les gars.
Ça fait plaisir.
Ça nous fait toujours plaisir. Yes. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la décomposition du bénéfice puis du tri. C'est quoi le tri?
Qu'est-ce que ça mange en
hiver? Taux de rendement interne. Qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est ça?
Ça commence fort, là. Tu sais, le nez, tu disais que mon nez saignait, ouais, Kevin, etc. Mais effectivement, que tu vas nous parler de tout ça, puis tu vas venir, si on veut, vulgariser tous ces termes-là, puis qu'on puisse avoir une meilleure tête, puis une meilleure idée de comment ça fonctionne.
Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de finance ou de cours de finance, la vanne et le tri, ça veut absolument rien dire. Fait que on part du début.
On part du début. Ben, en fait, ce qu'il faut retenir, là, on va le vulgariser vraiment de manière brute, là, c'est votre rendement qui parle vraiment au niveau des variations de liquidité dans le temps. Okay? Donc, sans rentrer dans la mathématique financière, principe d'actualisation. Autrement dit, ça devrait être votre vrai rendement. Quand vous faites vous analysez un projet d'investissement immobilier, y en a beaucoup qui vont parler du retour sur investissement. Il y en a qui vont comprendre c'est quoi le retour aussi sur équité, qui ça aussi va faire l'objet d'une autre capsule. Mais là, le tri, le taux de rendement interne, ça devrait être le vrai rendement pour analyser un projet.
Tu prends en compte le temps.
Tu prends en compte le temps, exactement. Ça prend en compte surtout au niveau des liquidités dans le temps. Donc, la valeur temporelle de l'argent.
Fait que, au-delà de ça, c'est qu'on est capable d'avoir un indicateur qui va nous permettre de mieux suivre notre rendement.
Exactement ça. Donc, on peut faire un projet d'investissement immobilier où est-ce que, on se dit que l'immeuble va prendre la valeur dans le temps, puis que vous allez le revendre dans 10 ans. Mais du moment que vous faites votre investissement, au moment où est-ce que vous le revendez dans 10 ans, bon, mais tout l'encaissement des flux de trésorerie, tout l'encaissement des liquidités et le décaissement aussi de votre investissement au temps zéro, au moment que vous achetez, eh bien, ça donne quoi ça comme rendement? Et là, c'est là que souvent, il y en a qui vont prendre ce qu'ils reçoivent à chaque année, exemple, en liquidité, ils vont le diviser par l'argent qu'ils ont mis, puis là, à chaque année, ça va donner un petit rendement. Puis là, rendu au bout de 10 ans, tu refais une vente, une grosse motte de cash qui rentre dans ton compte de banque, puis là, tu dis, hey, là, j'ai fait comme 200% de rendement, tu sais. Mais dans les faits, là, quand tu prends vraiment en compte la valeur temporelle de l'argent, c'est quoi le vrai rendement sur cet horizon de temps-là, du moment que tu as investi jusqu'au moment où est-ce que tu as vendu l'actif? Puis c'est ça le taux de rendement interne.
Parce que l'extrême exemple de ce que tu viens de dire, c'est les gens qui achètent une maison dans les années 60 puis qui disent hey, je l'ai vendu le double en 2010. OK, t'as-tu pris l'effet du temps sur 30 ans? Finalement, t'as peut-être fait 2-3% par année. Donc, t'as à peine battu l'inflation ou
et
pas.
Voilà.
Là,
fait que... Exactement. Puis encore là, dans le tri, tu peux venir enlever l'inflation à chaque année pour venir vraiment calculer ben, c'est quoi ton vrai taux de rendement. C'est sûr, pour quelqu'un qui a des connaissances en mathématiques financières, ben, le taux de rendement interne, en fait, c'est jusqu'à combien je peux actualiser mes flux de trésorerie pour qu'ils soient égaux à mon investissement au temps zéro, qui est la VAM, autrement dit. Jusqu'à combien je peux actualiser ma valeur actualisée nette de l'ensemble des liquidités générées dans le temps, donc à chaque année, et que ça va donner zéro. Donc, c'est égal à mon investissement.
Quand tu dis jusqu'à combien, tu veux dire en termes de temps?
En termes de rendement. Ouais, c'est vraiment le taux de rendement interne, en réalité, c'est quelqu'un qui fait une valeur actualisée nette, donc qui actualise les flux de trésorerie dans le futur, qui les ramène au temps zéro. Eh bien, le taux d'actualisation utilisé, jusqu'à combien je peux exiger sur cette actualisation-là pour que l'ensemble de ces sommes-là soit égal à mon investissement. Mais là, encore une fois, pour l'audience qui nous écoute, pas besoin de comprendre les principes de mathématiques financières pour comprendre que le taux de rendement interne devrait être votre métrique quand vous faites des analyses de projets d'investissement immobilier en termes de rendement. Évidemment, il y a d'autres métriques qui peuvent être utilisées pour avoir plein de raisons pour lesquelles vous voulez faire de l'investissement immobilier. Mais si vraiment vous voulez vous investiguer, vraiment vous voulez vous investir à faire des analyses de projets d'investissement immobilier, ça devrait être la métrique avec laquelle vous parlez. Puis quand vous avez des investisseurs, ça devrait être sur cette métrique-là que vous leur communiquez le rendement d'un projet.
Parce que c'est ça, pour mettre la table, dans le fond, que pour ceux qui connaissent pas ce principe-là, c'est de savoir que l'argent, la valeur de l'argent varie dans le temps. Fait que ce que tu amènes ici, dans le fond, c'est quand on actualise, mettons, pour que les gens comprennent bien, c'est que on vient ramener le dollar dans 2 ans au dollar aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui fait que l'argent vaut moins cher plus tard? C'est l'inflation, c'est la montée.
Exactement.
du coût de la vie.
Ouais.
Fait que c'est ça qu'il faut prendre en compte, même si le projet dure 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. C'est très important, justement, parce que ça peut faire varier. Puis je pense que c'est aussi un outil comparatif entre différents projets, le tri, je crois, là. À moins que moi-même, je suis pas sûr de le comprendre à 100%.
Non, clairement, c'est moi, clairement un outil comparatif, parce que justement le tri,
c'est l'indicateur sur lequel tu vas te baser.
Oui, c'est l'indicateur, mais le tri, tu sais, en immobilier, quand on parle de décomposition du bénéfice et du tri, eh bien c'est le tri composé de quoi, puis où est-ce qu'il y a son rendement. Parce que je peux, exemple, sur 5 ans faire un projet d'investissement, puis on va faire l'analyse, on pourrait aller sur Excel, faire ouvrir un tableur, puis mettre des variations de liquidité dans le temps. Et j'ai un projet sur 5 ans où est-ce que j'investis aujourd'hui. Puis l'année 1, 2, 3, 4, je reçois rien. Mais à l'année 5, je reçois un gros montant d'argent qui inclut évidemment mon investissement initial. Là, ça me donne, par exemple, un tri de 15 %. Je refais un deuxième projet. Celui-là, je mets la même somme au temps zéro, mais je reçois à l'année 1, 2, 3, 4 des liquidités. Donc, je reçois un refinancement, j'ai plus de revenus de loyer. Puis à l'année 5, je reçois moins que dans mon exemple 1. Mais ça donne 15 % de tri. Et ainsi de suite, on peut bouger comme ça les liquidités dans le temps. Donc, ce qui va faire varier le tri, évidemment, ben c'est le moment qui a la variation de liquidité et la quantité de cette liquidité-là. C'est ce qui va faire varier le taux de rendement. Donc, encore là, c'est le scénario 1 et 2. Qu'est-ce qui fait que j'ai le même taux de rendement interne, mais il y en a un que j'ai eu plus dans 5 ans, puis l'autre j'ai eu plus à l'année 1, 2, 3, 4. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que quand on analyse des projets d'investissement immobilier, eh bien, on doit être capable de modéliser dans le temps le projet, à savoir quel va être son bénéfice net. Donc, quand je parle de bénéfice net, ça inclut vraiment la partie des liquidités opérationnelles, donc ce qui est net de vos dépenses d'opération et du paiement hypothécaire, donc ce qui reste dans votre compte de banque. Vous avez ensuite de ça la partie de remise en capital, donc la réduction de votre dette, et vous avez par la suite le gain de valeur. Donc, évidemment, si vous êtes... La plus-value de la bâtisse, tout ça, que, en règle générale, dans la plupart des entreprises ou des états financiers en immobilier, on va pas venir réévaluer à chaque année, mais les grandes sociétés immobilières, eh bien, réévaluent la valeur de leur actif à chaque année et peuvent venir comptabiliser un gain de valeur s'ils sont en IFRS, par exemple, qui est un référentiel comptable qui permet de le faire. Donc, ils viennent comptabiliser un gain de valeur. Et là, notre bénéfice est comme composé de 3 morceaux. Le morceau, c'est les liquidités opérationnelles, la partie remise en capital, donc la réduction de notre dette, et la partie gain de valeur de l'actif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces 3 morceaux-là, il y en a une qui est liquide, puis les 2 autres sont totalement illiquides. Donc, pour que les 2 illiquides deviennent liquides, il faut qu'elles soient un refinancement. Donc là, on va refinancer sur la valeur de l'actif et selon le solde de la dette actuelle, ou lorsqu'on va vendre l'immeuble. Donc, est-ce que mon tri de mon projet est principalement un tri illiquide ou il est un tri liquide? Et quand est-ce que je vais avoir ces variations de liquidité-là? Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on peut faire plein d'analyses de projets. On peut se dire, regarde, sur 10 ans, là, j'ai modélisé un tri, par exemple, de 40%. Mais 3/4 du tri, donc quand tu le décomposes entre liquidité opérationnelle, remise en capital et gain de valeur, ben il est, par exemple, à 90%, c'est juste du gain de valeur. Après, ça devient un tri qui est beaucoup plus spéculatif, qui est beaucoup plus sur du gain de valeur et des perspectives de vente dans 10 ans.
Oui, parce que si je peux rajouter, dans le fond, sur tes 2 rendements qui sont plus illiquides, il y en a un qui est beaucoup plus assuré, connu, puis contrôlé au départ. L'autre, c'est vraiment plus de la spéculation. Fait quand j'imagine qu'on doit attribuer pas la crédibilité, mais la force dans le projet aux deux différemment. On s'entend que la plus-value, automatiquement, 90% des gens vont pitcher 2%, puis on se casse pas la tête avec ça, on met
exactement
ça dans le tableur. Mais
l'analyse ça a quoi le TGA de vente dans 10 ans? L'impact fiscal aussi qu'il faut calculer dans 10 ans.
Tandis que la capitalisation ou la remise en valeur, comme tu dis, ça, c'est du moment qu'on a notre prêt initial, on a tout notre calcul d'amortissement de l'hypothèque, ben, c'est connu. Là.
Exactement. Donc, nous, souvent, ce qu'on fait à l'interne, c'est qu'on prend la partie... Nous, on prend pour acquis que notre capacité d'emprunt va rester la même dans le temps. Okay? On se dit, exemple, sur 5 ans, mettons, je fais un calcul de tri, puis j'enlève le gain de valeur, puis je me dis que dans 5 ans, quand je vais refinancer, je vais être capable de remettre au moins ma dette à ce qu'elle était initialement. Donc, tout ce que j'ai remis à la banque, je vais pouvoir la récupérer en financement. Donc, c'est une variation de liquidité qui va se faire dans le temps. Et là, on est capable, nous, de venir segmenter le tri, de dire, mais regarde, juste le tri, liquidité opérationnelle et capitalisation, ça nous donne tant. Puis si je rajoute le gain de valeur, ça donne tant. Et bien sûr, plus que la composition du tri est basée sur de la valeur loin dans le temps, mais plus que ça devient un projet qui est beaucoup plus spéculatif, et où est-ce que le niveau de certitude d'avoir réellement ce rendement-là est bien moins présent. Et là, encore une fois, ça dépend de ce que vous adressez à les investisseurs sont sophistiqués, ce qui sont non sophistiqués, et c'est le cadre de leur communiquer. Parce que si tu leur dis, mon projet, il fait 30% de rendement, et surtout que ça devient dangereux quand que tu te mets à parler de rendement, là.
Ah oui.
Tu sais, je veux dire, tu mets beaucoup d'attente, mais faut que tu regardes de l'expliquer, ce rendement-là.
Il y a 50 justifier. Types de rendement, en fait. On peut toujours faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Fait que les gens se perdent souvent en s'échangeant sur c'est quoi les rendements, c'est quoi le rendement net, y est-tu capitalisé, y est-tu semestrié, tu sais.
Puis.
Faut avoir des bases,
en étant dans le milieu de l'immobilier, tu sais, je vais travailler avec 100 investisseurs, puis ils vont aller chercher des rendements selon leur grille de calcul.
Calculer différemment, ouais, c'est ça.
Complètement différente dans chacun des groupes. Tu sais, il y a des gens qui vont être prêts à sacrifier un certain rendement de par la localisation parce qu'ils veulent centraliser leurs immeubles. Il y en a d'autres qui vont rechercher à tout prix un profit à l'achat qui est très difficile des fois à avoir. Il y en a d'autres qui vont vouloir avoir un rendement sur la mise de fonds qu'ils vont avoir injecté. Il y en a d'autres que, tu sais, fait que tout ça va faire en sorte qu'on va avoir des objectifs différents, mais il faut tout le monde avoir une base globale sur les chiffres puis sur le rendement. Donc.
Oui, puis tu sais, où est-ce qu'on voit la encore plus une grande pertinence du taux de rendement interne, tu l'as mentionné, c'est que tu as des investisseurs qui veulent avoir un rendement sur leur mise de fonds. Puis, qu'est-ce qui arrive quand la mise de fonds est remboursée au complet? Exemple, on fait un projet, on l'achète, 2 ans plus tard, on a optimisé l'immeuble, on refinance, on récupère toute la mise de fonds. Comment vous faites pour calculer votre retour sur mise de fonds? T'sais, vous pouvez plus le faire.
Dorénavant, tu veux dire pour le reste
du projet? Ben, pour le reste du projet, t'sais, faites chaque bénéfice, vous le faites diviser par zéro. Fait que, t'sais, ça donne un rendement qui est infini. T'sais. Mais alors, c'est là que le taux de rendement interne va être encore plus pertinent. C'est que là, on va vraiment avoir une vue qui tient compte de la valeur temporelle de l'argent dans le temps, qui va être beaucoup plus précise.
Moi, je serais curieux de savoir, justement, qu'on disait tantôt la plus-value ou l'augmentation de la valeur. Toi, t'abordes ça comment dans tes projets? T'sais, on dit, on pitch pas le 2% aussi facilement que ça, mais comment tu modélises ça pour justement arriver à quelque chose de plus pointu ou plus précis, là?
En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est bâti un modèle de modélisation. Un gabarit, ça se dit.
Ouais. Un modèle de modélisation.
Un modèle de modélisation.
Ça, c'est l'AF1, là.
Un gabarit de modélisation. Où est-ce qu'on tient en compte plusieurs variables? Donc, par exemple, on fait augmenter, on stress-teste le taux d'intérêt, on met de l'inflation sur les dépenses, une croissance des loyers.
Peut-être dire aux gens, c'est quoi le stress-test?
Stress-test, c'est que, par exemple, vous financez votre immeuble aujourd'hui à 3%. Donc, on utilise un taux de qualification de 3%. Et là, dans 5 ans, vous refinancez, mais le taux est rendu à 4,5%. Eh bien, pensez pas juste que ça va impacter votre paiement hypothécaire, ça va impacter aussi le montant
capacité
de prêt.
D'emprunt.
Ben oui. Donc, tout ce que vous avez mis sur la dette pour la rembourser à tous les mois, il y en a qui pensent que c'est 100% récupérable, mais pas nécessairement dans un cycle économique où est-ce que tu refinances 5 ans plus tard avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Dépendamment de comment tu as augmenté ton revenu net, là, ce qui est à la toute fin, là, les revenus moins les dépenses d'opération seulement, comment tu as bien géré ce revenu net-là, bien, c'est pas une certitude. Donc, la plupart des gens le savent pas, là, ils pensent que l'immobilier fait juste prendre la valeur à l'infini comme ça, puis que c'est...
Il y a même des scénarios où tu pourrais avoir à remettre l'argent. On a déjà parlé avec Peter Quinn, tu sais, ça c'est
oui, exactement. Peux,
là, d'être pris oui, pour scénario, remettre ouais. au refinancement, puis jamais personne puis, voit ça.
Mais... Une des choses au niveau économique, tu sais, avant 2016, on pouvait emprunter 53%, puis tu sais, oui, il y avait un taux de qualification à 4,64, mais si vous preniez un hypothèque sur 5 ans, ben à ce moment-là, ils pouvaient, oui, prendre le taux du jour. À l'époque, c'était près de 3%. Puis, tu sais, à septembre 2016, ils ont obligé le taux de qualification à 4,64%. Puis là, les gens avaient mal compris les informations. Ils disaient, crime, on peut plus acheter avec 5% de mise de fonds. C'est 20% de mise de fonds. Puis c'est complètement ouais. différent. Ouais. Mais il y a eu ces arguments-là qui se sont dit. Puis par la suite, en 2018, il y a eu une réforme du taux de qualification qui est passé de 4,64 à 5,34%, qui est quand même énorme. Puis en juillet 2019, ça a été revu à la baisse à 5,19%. Fait que la capacité de l'acheteur, par exemple, puis je donne des stats parce qu'on les voit récemment. Un acheteur pour acheter une maison unifamiliale avec un revenu familial de 90 000, qui est pas mal la moyenne québécoise, avec une carte de crédit, un paiement de char, qui est vraiment pas beaucoup d'indépenses, bien, avant septembre 2016, il pouvait acheter une maison de 414 000 avec les différents rendements oui. puis ratios qu'on prenait. Puis, en date d'aujourd'hui, ils peuvent acheter une propriété de 335 000. On a diminué leur capacité d'achat de 20 % ne serait-ce que pour un taux de qualification. Mais c'est des bonnes choses qu'on fasse ça. Puis toi, c'est un peu ben, ça que tu dis aussi.
C'est un peu dans le stress test. Ça. Ben, exactement. Parce qu'on parle du taux d'intérêt dans le stress test, mais ça peut aussi être les règles ou les lois hypothécaires canadiennes qui peuvent nous enlever la capacité d'emprunt. Fait que
exact.
Continue sur le stress test.
Ben, le gabarit de modélisation, donc on avait ouais. le stress test du taux d'intérêt. Ouais. Ensuite de ça, on a le taux global d'actualisation, donc le taux à laquelle on va vendre la bâtisse. Donc, à combien de fois qu'on paye, à combien de rendements qu'on achète les revenus nets dans 10 ans.
Le fameux TGA.
Oui, le TGA, le taux global d'actualisation. Donc, si par exemple, on modélise sur 10 ans, puis on se dit, parfait, dans 10 ans, moi, je prends pour acquis que je vais le revendre, ben, à combien de TGA? Mais là, je veux dire, est-ce que ça va être vraiment le TGA, le même TGA qu'à l'achat, ou ça va être un autre TGA? Donc, encore là, on va le stress test et on va calculer, évidemment, l'impact fiscal. Bien sûr. Donc, ça, il y en a beaucoup qui l'oublient. Donc, tout ce qui est récupération d'amortissement, gain en capital. Donc, on vient tout faire ce calcul-là. Et là, avec tout ça, toute cette modélisation-là au complet, évidemment, c'est pas une boule de cristal. Mais on part avec le principe que, toute chose étant égale par ailleurs, si une année, j'ai eu plus de dépenses ou moins de dépenses, ou que le TGA de vente est plus petit ou plus grand, peu importe, on se dit, toute chose étant égale par ailleurs, on devrait être capable de trouver une braquette de taux de rendement de X. Et là, ce qu'on se fait, nous, c'est qu'on se fait trois scénarios. Fait qu'on se fait un scénario où est-ce qu'on se met des critères super pessimistes. On se fait un scénario où est-ce qu'on se dit que c'est des critères qui sont conservateurs, qui roulent. Puis on se fait un scénario où est-ce qu'on met des critères super optimistes. Ouais. Donc, quand on a ces trois-là, on est capable de vraiment établir une fourchette. Et là, on est capable de communiquer le rendement du projet. On est capable de dire, ben, nous, on pense que ce projet-là, en taux de rendement interne, va générer, par exemple, entre 25 et 32 sur 5 ans. Et dans ce 25 et 32-là, il y a tant de pourcentage qui est en liquide, tant de pourcentage qui est en remise en capital et tant de pourcentage qui est en gain de valeur.
OK. Fait que c'est pas juste mettre 2% pour la plus-value.
Non.
On va aller plus loin.
Non, c'est une erreur de mettre 2% parce que, ben, en fait, c'est pas vrai. Oui, on pourrait mettre un 2%, 1,5%, 2,5%. Je pense pas que de mettre un pourcentage, c'est une erreur. C'est de mettre n'importe quel pourcentage pour aucune raison qui sont au moins une erreur. Donc, si vous faites juste mettre des chiffres pour mettre des chiffres, parce qu'on vous a dit que c'était ça, c'est ça qui est problématique.
Posez-vous la question.
C'est parce que c'est 2% de la valeur de la bâtisse. Fait que c'est quand même assez majeur dans la prise de valeur. Hein?
Ouais.
Parce que c'est 2 ou 2,5 ou 1,5, des fois, par rapport justement au rendement net ou le rendement annuel qui est assez minime si on reste, mettons, dans le multilogement standard, là, ça aura un gros impact d'aller pitcher un 2% ou un 2,5 versus 1,5. Fait que faut pas le négliger non plus.
Non, puis tu sais, les revenus vont augmenter.
Son poids là-dedans, ouais.
C'est une certitude que les revenus augmentent. Est-ce que c'est une certitude qu'il va y avoir de l'inflation? Bon, en tout cas, ou des taxes, forte chance, oui.
Des bonnes chances.
Bonne chance, ça, oui. Les taxes augmentent. Mais, tu sais, c'est toute cette notion-là de certitude. Vous n'avez pas une boule de cristal, même si ça fait 10 ans que ça roule comme ça, ça ne devient pas justifié. Et en même temps, c'est le rôle de l'analyse d'investissement puis de la modélisation, de bâtir un gabarit, de bâtir un modèle qui tient compte de plusieurs variables qui peuvent bouger dans le temps. Puis, il n'y a pas, encore une fois, c'est personne qui peut savoir ce qui va se passer. Mais si vous êtes capable de faire jouer les bonnes variables, vous êtes capable de bien gérer les attentes de vos partenaires, de vos investisseurs, puis c'est ça qui est important.
Puis dans le fond, c'est ça. La plus-value, on la contrôle pas. La capitalisation, on a un certain contrôle, du moins au départ. Toi, y a-t-il une façon d'optimiser ça? Le but, c'est-tu de payer le moins possible, dans le fond, en termes de paiement mensuel pour le récupérer dans la liquidité puis être plus agile ou plus flexible? Ou as-tu des stratégies pour optimiser la capitalisation elle-même?
Ben c'est sûr que quand on y va dans une stratégie de dette conventionnelle, tu vas avoir une plus forte capitalisation parce que l'amortissement est beaucoup plus faible. Mais il y a beaucoup de projets qu'on fait où est-ce que le cash flow est difficile au niveau opérationnel, là, où est-ce que, tu sais, on arrive toujours à payer le service de la dette, le paiement hypothécaire, plus toutes les dépenses d'opération. Mais où est-ce que la stratégie est principalement sur une revente ou sur un refinancement qui va dans un horizon de 16 à 24 mois suivant l'acquisition. Donc, je te dirais que ça va vraiment dépendre. Pour protéger la partie capitalisation, ça nécessite de faire une réévaluation à chaque fois qu'on vient augmenter nos loyers, c'est de faire une réévaluation de valeur. Puis de regarder dans le modèle qu'on a fait initialement, est-ce que je suis loin ou est-ce que je suis en avance ou est-ce que je suis pas mal even à ce que j'avais prévu. Donc, nous, on vient justement de le faire. On tourne la vidéo, on est au mois de janvier et on vient de le faire. On a refait une réévaluation complète du portefeuille de tous les immeubles, on repart tous les revenus, les dépenses, on regarde le revenu net normalisé, le TGA du secteur, on effectue un petit stress test sur ce TGA-là. Et là, on vient de dire, bon, mais combien est-ce qu'on devrait augmenter pour au moins protéger notre capacité d'emprunt? Puis ensuite de ça, si on a de la place, ben, on va dire, parfait, mais on va aller chercher encore du gain de valeur.
Ce que tu veux dire, par exemple, refinancer sans être nécessairement à la porte de sortie du projet. Exactement. On peut le faire en cours de route pour geler une capacité d'emprunt pour dans le temps, dans le fond, pour pas te faire surprendre.
Exactement ça. On prévenir, geler la dette à un autre moment. Ça dépend du type de dette que tu vas mettre. Tu sais, dans le neuf, c'est sûr qu'on y va vraiment sur des amortissements de 40 ans ou dans des grosses strips de bâtiments, on va mettre des amortissements de 35 ans. Donc, le but, c'est que quand on vient geler la dette long terme, on veut une dette qui performe le plus possible. Et là, c'est là que la notion de liquidité devient importante. Et évidemment, à un moment donné, c'est bien beau avoir des millions de dollars en équité immobilière, mais...
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.